flasque. Et la fume. Et la fume.
Bonsoir à tous, bienvenue en direct et sans public dans votre émission de cinéma qui ne dira pas filmographie, qui ne dira pas dispositif de mise en scène, mais qui vous dira
bonne année !
Et qui vous dira tous des trois films sélectionnés ce mois-ci par notre bande de chroniqueurs ivres et fumeux. Sont présents ce soir avec nous Michel Gross du journal satirique Awakiri.
« 11 532
jours sur Terre », Maria Thury du magazine Télé Moisirs, qui fête son 11 575e jour sur Terre, Stéphane Couillard du mensuel Citizen Q, 15 295 jours sur Terre, ça
fait pas un de moi.
Et Diane la tendresse du courrier de Chicoutimi.
Oui.
Ouais. 12 746 jours sur Terre.
Aïe.
Est-ce que quelqu'un ici a pris des bonnes résolutions pour 2015?
Bien sûr.
Évidemment. Ou des mauvaises?
Moi, j'ai essayé de plus de boire encore.
Stéphane?
Je sais pas.
N'avait pas pris de résolution.
Pas encore. J'attends la fin de cette émission.
Feignant.
Maria,
non, pas de résolution, pas pour le moment.
Non, pas de résolution. Non.
Je suis irrésolue de nature.
Oh, c'est beau. Des chroniqueurs libres qui n'ont pas pris de résolution pour 2015, qui ne pourront jamais être déçus.
Caroline Garçon, vous êtes née depuis combien de temps?
Je vous le dirai à la fin.
Très bien.
De cette émission. Ce mois-ci, le film du oui dont l'affiche nous a aguiché est A Most Violent Year de J.C. Chandor. Le film du non dont l'affiche nous a affligé est Une heure de tranquillité de Patrice Lecomte. Et le film du pourquoi pas dont l'affiche nous a intrigué est 20 000 jours sur Terre de Ian Fawcett et John Pollard.
Okay.
Oh yeah.
Enfin, Stéphane Couillard nous chroniquera en vitesse La famille Bélier d'Éric Lartigot et Fidelio l'Odyssée d'Alice de Lucie Borletot, deux films supplémentaires qu'il est allé voir seul pendant que le reste de l'équipe cuvait son vin chaud dans le chalet en bas des pistes. C'est la rubrique Touchous.
Quel ride.
Oh, quel lèche-bloc.
Nous terminerons l'émission avec les recommandations très très personnelles de nos chroniqueurs, mais tout de suite c'est l'heure du courrier fumeux des auditeurs. Flora, une auditrice interloquée, nous demande « Qui est Michel Gross? Comment l'avons-nous sélectionné? Chronique loufoque, graveleuse, chant rythmé par une voix rocailleuse, personnage vulgaire qui empiète qui plus est sur les parties intimes de Stéphane Couillard. Prépare-t-elle ses chroniques juste avant l'émission comme nous le faisions au collège juste avant les cours? Que diable, bordel, c'est à Pigalle, pas à la flasque. »
Mais c'est à Pigalle et à la flasque, de même.
C'est vrai, mais ceci dit, un auditeur prénommé Hervé s'interroge également à propos de Michel.
Michel déchaîne les passions.
Parle-t-elle d'elle-même à la troisième personne? Serait-elle atteinte du syndrome Alain Delon? Sinon, parle-t-elle d'une amie à elle qui porterait le même prénom qu'elle? Je pensais que son amie s'appelait Brenda. Je ne comprends plus rien. Un peu de clarté, s'il vous plaît.
Ça va venir.
On va tout savoir à un moment.
Confusion identitaire.
Confusion intime.
Jean-Patrick P. nous écrit « Toutes mes pensées montées vers vous en ce lendemain de Noël depuis la tasse fumante et matinale de mon Irish Coffee quand un doute m'assaillit. Suis-je un normopathe, comme le héros de Nile Cole? Ou pire encore, suis-je mauvais de naissance en raison de mes yeux noirs, comme les gangsters de la French? Je dois vous confesser une tare, je suis un hypochondriaque moral. Aussi rassureriez-vous un auditeur fidèle entre deux âges, célibataire, discret mais pas trop, si vous lui confirmiez que ces diagnostics terribles dont il se sent affublé, c'est juste du cinéma. Courtoisement, Jean-Patrick P. »
Donc il ne se fasse pas de sauce, c'est
vrai. Patrick Bateman, oui.
Psychopathe.
Enfin, un auditeur a entendu le désir de Michel Gross de rencontrer un homme comme Tani de la French Connection et lui écrit « Jeune cadre dans la finance, je ne joue pas hors la loi, je ne maltraite pas mes collaborateurs, je ne porte pas de flingue, je ne possède pas 3 villas, 2 restaurants, ni la plus grande boîte de la côte. »
Un loser.
Mais il arrive qu'entre collègues, nous nous tartinions les narines de coke.
Oh,
pour ce qui est de t'entretenir, je ne rêve que de ça. Cher Michel, crois-moi, ton Tanis et moi, Brendan.
Ah, oh, passe-moi son WhatsApp.
Ouais, enfin, vous aviez aussi flashé sur Nina de Nightcall, hein. N'oubliez pas Brendan que Michel mange à tous les râteliers. Hein.
On retrouve Brendan.
Place au film à présent, avec tout d'abord le film du oui. Ce mois-ci, le film que nous avons attendu avec impatience est A Most Violent Year de J.C. Chandor. Le film se passe à New York en 1981. Et alors que dans la ville, les crimes n'ont jamais été aussi nombreux, Abel Morales, joué par Oscar Isaac, se bat contre la corruption et la violence pour atteindre ses ambitions dans le business du pétrole. Soutenu par sa femme, jouée par Jessica Chastain, non pas Chatin, fille de gangster, tout en sein et en arrogance, il incarne la volonté de rester droit face à un monde de plus en plus violent. Un film que j'ai trouvé captivant, brutal, rythmé et profond pour ma part. Des acteurs envoûtants. Je salue au passage le second rôle Elias Gabel, qui joue le jeune chauffeur Julian, terrorisé et victime de ce monde terrible. Bref, un film idéal pour bien commencer l'année. Chers chroniqueurs, souhaitez-vous à nos auditeurs A Most Violent Year. Diane de Tendresse, vous qui soupirez, votre avis.
Alors, donc ce film a été tourné, enfin parle de l'année 1980, j'avais un an et je ne savais pas alors combien l'ennui pouvait être profond. C'est ce que me révèle ce film aux comédiens petits. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui mesure 1m68 qui vous le dit. Au second rôle, soi-disant à gueule, mais probablement mal casté, pas assez moche ni assez inquiétant selon moi. Tout le long de ce film, on a cette impression que ça rate. Qu'on va y venir comme après des préliminaires, mais nul orgasme en perspective. D'ailleurs, le couple de cette histoire, hein, Oscar Isaac, qui depuis le film des frères Cohen reste dans une position selon moi de wannabe et ne décolle pas du niveau de prometteur. Et Jessica Chastain, nonobstant son décolleté, n'est-ce pas, que vous avez cité, est ostensiblement plongeant.
Sur la fiche
également. Ce qui est le seul coup de chaud de ce film, n'est-ce pas, eh bien, il ne baisse jamais. Il ne baisse pas et nous non plus. Alors, dès le début, ce héros nommé Abel et la référence biblique beaucoup trop ouverte, selon moi, m'ont pesé. C'est un film ingrat. Le scénario est chétif. La photo, parce que vous aimez qu'on en parle, est belle. Mais rien ne peut rendre sexy ces décors de friche industrielle. L'écriture est peu percutante. Je vous passe la morale qui promeut le chemin par lequel on passe plutôt que le résultat de nos actions. C'est peu percutant ou alourdi par des emprunts à du bien meilleur, comme pour vous citer. Je n'avais jamais réalisé qu'on avait cette vue-là, entendez par là, donc depuis le nouveau réservoir à pétrole que le héros vient d'acquérir. Et là, bien sûr, le paysage qui sort devant nous, c'est Manhattan. Et oui, ça vous rappelle quoi? Saturday Night Fever, c'est fait, c'était.
Oh non!
Alors, c'est compliqué, je pense, selon moi, parce que l'épopée de cet immigré latino qui va devenir un grand à New York, elle nous est racontée juste sur une période de sa vie assez boring. Hein? Et oui, il a des emmerdes. Alors, avec la justice, entendez, avec les gentils, comme avec les voyous, entendez, avec les méchants. Alors, en plus, ces gentils, ben, ils sont de faux gentils, un procureur véreux, hein, et les méchants, ben, c'est juste deux pauvres types qui n'appartiennent à aucune organisation particulière. On voit aussi dans ce film passer des juifs ultra-orthodoxes, des italo-américains, et personne n'est vraiment salaud, il n'y a pas de gang né d'adrénaline. Alors, peut-être ce récit aurait-il été plus trépidant s'il portait sur Abel 5 ans avant, au moment où il démarrait son affaire, ou un an après, quand il se serait enfin décidé à entrer dans la corruption, à prendre de la coke, à devenir Scarface, quoi. Mais là, c'est l'éjaculation précoce.
Va te repousser le nez, salope.
Le rôle féminin dans La Tentatrice, oh, comme Ève tient à nouveau la Bible, ne rattrape en rien ce manque de contenu, ce soi-disant chemin de croix d'un héros qui va rester sur la droite ligne. Ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire non. Non, alors ça... Restons-en là.
Oh, vache. Ben, n'allez plus voir
Mosfayolantia. Allez voir Mosfayolantia.
Maria Turi. Pas très vite.
Je suis quand même très étonnée que pour Diana Tendresse, JC s'endort, parce que pour moi, JC, ça dort. Très nettement, c'est un très bon film.
Ah,
ouais. La fraîche peut aller se rhabiller vite fait, bien fait. On tient un film d'époque magnifique. La photo éblouissante. Il y a plusieurs moments où on a même presque envie de toucher l'écran, tellement que c'est beau. On a envie de toucher cet écran, ce canapé, cet intérieur, ce tapis poilu. Je suis un peu déçue sur Jessica, j'y reviendrai. Mais c'est un film quand même qui est très beau. Et pour le coup, désolée de revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais là, cette fois, on a une masculinité qui est belle, qui est complexe, qui n'est pas cliché. Il est assez envoûtant quand même, cet Oscar, parce qu'il n'est pas vulgaire, il est complexe, et il y a aussi un très beau message.
C'est le manteau jaune qui vous a plu, alors.
Manteau cannelle. Très beau message sur l'intégrité, parce que finalement, il se fait un peu brinque-baller sur cette intégrité. Et puis, moi, j'ai trouvé que ce film était palpitant, ça m'a tenu de bout en bout. Et j'ai trouvé que c'était assez dingo quand même de faire un intrigue sur ce thème-là, qui n'est pas la violence, qui est finalement le business. On arrive à nous tenir avec une intrigue sur le business. Voilà, on a un film d'entrepreneur palpitant. Parce que finalement, il ne salit vraiment jamais les mains, ce bon Oscar, pas vraiment. J'ai trouvé que la symbolique était partout, elle était très subtile. Jusqu'à la fin où effectivement il y a ce fuel là, comme ça, noir, qui coule de la cuve blanche.
Coït interruptus.
Et qui n'y met même pas la main, puisqu'il sort juste un petit mouchoir dans sa poche très propre. C'est quand même toujours très propre sur lui avec son blazer. J'ai trouvé que c'était un très bon film. J'avais adoré Margin Call, donc je partais quand même avec des attentes sur ce film. J'ai été comblée. Seul regret, Jessica Chastain, qui est pour le coup rousse, hein, et pas châtain dans ce film. je trouvais qu'elle faisait un peu le rôle qu'on lui donne sur l'affiche, c'est-à-dire d'aller faire venir des gens dans la salle de cinéma. Voilà, je suis la petite secrétaire qui revoit les comptes en chemisette de satin. Bon, pourquoi pas,
mais avec ses ongles.
Elle est importante. Elle est elle-même fille de malfrat.
Oui, mais on préférerait encore plus peut-être de ce personnage-là, qui est pas assez, qui est un peu son double négatif à lui, hein, quand même aussi, il faut le dire, parce que c'est un peu son petit démon. Elle le sort un peu de la panade. Voilà, au moment où il est un peu obligé d'accepter de faire des compromis avec son intégrité, donc c'est un peu son double quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un super film, que c'est magnifique, que ça commence. Moi, j'ai été scotché à mon siège, l'image est magnifique. Ça, c'est du cinéma.
Donc, on a un nom, un oui, Stéphane Couillard.
Moi, je suis au regret de constater que, après ces deux analyses fort pertinentes et contradictoires, j'ai pas grand chose à en dire, une fois de plus. Enfin, et d'ailleurs, quand je suis sorti du film, je savais vraiment pas comment dire. Ce qui fait que je suis allé lire ce qu'en disaient nos confrères de la presse écrite.
Ah bah bravo,
thriller social.
Et j'ai noté un certain nombre de leurs assertions. Alors on parle de western urbain, de dissection du rêve américain, de série noire king size, de scénario malin et inspiré, de plongée stylée dans le New York des années 80, de mise en scène sobre, décor travaillé, plan composé. Mais le tout un peu lent.
Vous pouvez nous dire que vous n'êtes pas allé voir le film.
C'est ta belle.
C'est ta belle.
Moi, j'ai cru.
D'acteurs remarquables. Il y aurait même des références. Il y aurait même des références cinématographiques à Sidney Lumet, par exemple, L'homme qui court dans Serpico. La poursuite du camion, c'est French Connection de Friedkin. Le personnage féminin, c'est celui de l'affaire Cicéron de Mankiewicz. Et malgré tout, en ayant lu toutes ces critiques de nos chers confrères, je ne sais pas plus quoi en dire.
Tout à fait.
Moi, je ne sais pas si je me suis ennuyé, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas, et je ne sais pas si c'est un bon film ou si c'est pas un bon film.
Vous étiez sous.
Non, pas du tout. Non, j'étais pour une fois. Je pense que c'est pour ça que je ne sais quoi en dire.
Vous réveillez de votre parterre de fleurs à classe de clichy.
Bon, la vérité, c'est que c'est un film trop maîtrisé. À aucun moment ça pète, à aucun moment ça ne s'emballe, c'est froid, le cher Abel garde son manteau tout le film. Il y a quelques coups, bref, répétés.
Ce nu, je sais pas,
celle de bain, la salle de bain,
c'est un moment où il s'interroge à savoir s'il va penser du mauvais côté.
Donc quelques coups, bref, répétés, mais pas la puissance d'un orage qui s'abattrait sur nous. Donc c'est un orage qui passe au loin et qu'on regarde.
De loin,
gentiment installé dans son petit fauteuil.
D'accord, Michel Gross.
On a eu les sous-titres au pâté. Félicitations, Bété, monsieur Bété.
Alors, pour moi, c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Même s'il reste pour moi, comme vous le disiez, un film froid. Il n'y a quasiment pas de musique pendant le film. Il n'y a quasiment pas de musique.
Il n'y a pas de musique, mais moi, j'ai trouvé ça super.
Si, il y a une petite musique.
Mais c'est très, très léger.
On entend leur souffle, ça donne un côté brut un peu.
Bon, je peux parler.
C'est
un sujet original, bien amené, avec tous les ingrédients réunis pour nous tenir en haleine. Des dialogues intelligents, je trouve. Un suspense prenant, un peu à Hitchcock, qui fait sursauter plus d'une fois toute une salle. Moi j'ai sursauté quand même trois fois.
Il y a des gens qui ont ri moi pendant le
rigole pas parce que c'est pas drôle quand même de se faire buter. Un personnage Abel, sexy, droit, charisme de folie, viril, droit dans ses baskets qui casse avec un entourage cerné de brigands. Il est époux de la femme d'un célèbre gangster de New York, qui en fait est un gérant de boîte de nuit à New York, qui elle-même met des activités peu recommandables à New York. C'est un peu son démon à lui, comme vous le disiez, ma chère Maria. Moi, je le trouvais très naïf, ce personnage-là. Il trouve son empire d'or cimenté dans de la merde, clairement. Un truc qui m'a vachement intéressé, pour le coup, je pense qu'il fallait le voir, c'est le jeu des ambivalences. Des parallèles intéressants avec l'homme venu d'ailleurs qui réalise le rêve américain. En face, un conducteur de fioul, son pendant, son double inversé. Un personnage avec une foi invincible face à un monde impitoyable qui rappelle toujours que le mauvais a aussi du bon. Bref, au niveau des codes, c'est important les codes, on n'a pas parlé. Le film n'y reprend pas tous les codes des films à la Parrain, Scarface. Sauf peut-être le physique d'Abel qui rappelle un petit peu celui d'Al Pacino.
En plus petit.
En plus petit, en plus petit et en moins poilu. Je m'attendais à voir un Scarface avec des gangsters, des putes, de la coke, des coups de feu toutes les deux secondes, des patelopes de l'année salope, je leur fais encore, j'aime bien. Et non, c'est un film psychologique. Je pense que c'est ça qui fait que le film est froid. Il est très psychologique.
Bon, Michel, vous avez aimé ou vous avez pas aimé?
J'ai adoré.
Ah, voilà, il faut le dire.
Attendez, j'ai bientôt fini. Jessica Chastain, ses clopes, son vernis, son vin. Pour Mimi, c'est un top thriller. Libé parle d'un film au héros libéral pur sucre, dévoré d'ambition et porteur d'une autre violence moderne et impitoyable. Je le trouve un peu dur.
On ne parle pas de la concurrence. Hein.
Moi, j'ai trouvé un film qui était un très beau film.
Vraiment pas trouvé.
La même chose chez Darty.
Moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Moi, pour moi, c'est le film du yes.
Pour vous, c'est le film du oui.
Qu'est-ce qu'il est sexy?
Alors, on a deux grands oui, un grand non.
Bah oui, c'est
pour
vrai.
Diane et
un plutôt non.
Il a pas vu le film quoi.
Oh, il a pas vu le film, il a fait une revue de presse. Bon bah d'accord.
On peut quand même souligner Marvin Gaye au début, c'est fantastique.
Donc comme on a quand même deux grands oui, ça va être quand même au début du film.
Alors, on regarde le film du oui.
Ça reste quand même un bon oui. Le film du oui reste un film du oui avec les réserves.
Oui moins.
Un oui moins. Un oui moins.
Un oui moins.
Un petit oui.
Très bien. Place au film du non. Ce mois-ci, le film que nous avons adoré détester est Une heure de tranquillité de Patrice Lecomte. Le réalisateur des Bronzés signe une comédie adaptée d'une pièce de théâtre de Florian Zeller. Il met en scène Michel, joué par Christian Clavier, qui ne rêve que d'une chose, écouter un disque de jazz qu'il vient de dénicher aux puces. C'est bien sûr sans compter sur sa femme rongée par un secret, son fils rebelle altermondialiste, sa femme de ménage, le plombier polonais-portugais, sa maîtresse, son meilleur ami et la fête des voisins qui s'organise. Un Christian Clavier égal à lui-même dans une comédie rythmée où apparaissent beaucoup de second rôle, Carole Bouquet, Rosy de Palma, Stéphane de Groot. Des acteurs hélas pas tous égaux.
De Groot ?
De Groot.
Ah oui, de Groot.
Bah oui.
De Groot, c'est pas vrai, de Groot.
Vous avez une autre proposition ?
De Groot, mais bon, c'est
de Groot. Pourquoi pas ?
Groot ?
De Groot. Stéphane de Groot.
Carole Groot.
Des acteurs hélas pas tous égaux. Des acteurs hélas pas tous égaux, le film m'a agacé au plus haut point. Valérie Bonneton est un peu caricaturale. J'ai eu quand même une bonne surprise avec l'apparition de Jean-Pierre Marielle qui avait déjà surgi sur une
bande de vous
dans le navet avec Sophie Marceau.
Il est courageux. Voilà.
Alors est-ce que Marielle a signé pour être en guest star dans toutes les coproductions?
D'ailleurs, là, une petite dédicace, on vous dit c'est l'ami qui est toujours là quand il faut. Hein, donc bon, après,
pas vu ça.
C'est le scope de l'année.
Bon, bah Marielle, la Miricorée. Toujours est-il qu'à la fin de la séance, je ne savais pas qui du film ou de ma voisine que j'entendais manger frénétiquement ses M&M's m'avait le plus irrité. Cher chroniqueur, qu'en avez-vous pensé? Diana Tendresse, je crois que vous avez préféré vous accorder 1h18 de tranquillité.
J'avais pissé.
Au lieu de voir le film, mais vous avez bien fait.
Oui.
On commence donc avec Maria Turi.
Bon, bah, ça restera le film du non. Hein. Je crois que là, ça va être difficile de dire autre chose. Je trouve que ça manque un peu d'excès, finalement.
De folie.
C'est très convenu. On pourrait aller plus loin, le personnage de Bonneton, qui, moi, elle me ravit quand même toujours, cette nana-là. Je la trouve assez marrante. On pourrait aller un peu plus loin dans l'excès. Et effectivement, le meilleur truc à tirer de ce film, c'est les seconds rôles, donc cette fameuse Valérie Bonneton, Stéphane de Groot qui est quand même assez marrant, espèce de voisin polonais, incruste.
C'est le meilleur.
Et Rosy de Palma qui finalement est le meilleur gag du film, qui est le fait quand même qu'elle renifle, hein, ça monte pas très haut. Bon.
Pourquoi renifle-t-elle, hein?
C'est pénible.
Moi, j'ai pas grand chose à dire. Ce film, c'est pas. J'avoue, j'ai ri. Il y a quelques moments où j'ai ri. Je vais pas dire le contraire.
Oh, vous êtes forcé.
C'est taillé sur mesure pour Clavier, qui ressemble de plus en plus à une bouteille d'Orangina, hein, ou à une aubergine quand il se casse la gueule dans son salon et qu'il est là. Franchement, c'est atroce. Si ça, c'est le cinéma français, mon Dieu, quoi.
Ça glisse. Il manquait plus que Sophie Marceau dedans.
Ouais. Il aurait peut-être fait le secouer avant, je sais pas, mais bon, bref.
Il essaye d'écouter son album qui s'appelle Me, Myself and I.
Oui. C'est un peu gros, quoi. Et dernière chose, je suis sortie de là et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de choquant. Parce que finalement, on se moque un petit peu de ce personnage qui a tout pour déplaire. Espèce de Richard du 16e, misogyne, menteur, il a tous les défauts quand
égoïste.
Même.
Égoïste.
Égoïste, il a tous les défauts, à moitié maniaque avec son aspirateur, etc.
On s'en moque
pas vraiment finalement. On l'égratine un petit peu ce personnage comme si c'était normal finalement que ce mec-là existe et qu'il soit comme ça. La petite fin où finalement il se rattrape, pour moi ça marche pas, c'est vraiment plein de bons sentiments. Donc finalement quand même, on fait une espèce de poésie populaire sur un mec qui est un gros con et qu'on égratine pas vraiment. J'ai un peu du mal à comprendre cette morale. Il y a quelque chose qui me gêne, quelque chose de choquant. Voilà.
Moi, dans le pâté Vépla où j'étais, les gens m'ont applaudi.
Ils t'ont applaudi ?
Oui, ils m'ont applaudi.
Ils t'ont applaudi comme une garçon, oui.
Mon air accédé à la télé, vous aimez.
Émigré au Québec.
Michel Grosse.
Alors, le seul intérêt du film, c'est qu'enfin, j'ai pu expliquer à quelqu'un, et en l'occurrence ma copine Steph, ce que ça faisait d'être myope. Enfin, le générique débute sur un flou total. Vous avez remarqué ? On voit pas au début du film quels sont
les... Vous étiez dans quel cinéma ?
Vous pâtez comme d'habitude. Mais si, et en fait on voit plus rien, tout est flou, et d'un coup on tombe sur la scène de la brocante. C'est chiant comme le film, c'est un film, faut pas y aller, n'y allez pas, c'est une vraie dope, c'est nul, y a pas de fin, c'est pas intelligent, c'est raciste. Clavier, il en fait des tonnes. Ça suffit ! Jacouille, il y en a marre, il y en a ras le cul.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un mauvais de finesse.
C'est vrai que pour les fans de Jacouille, là, ils sont servis.
Ah, quand tu mets les salles de bain, on dirait que.
Chanel qui l'a vidé, quoi. Voilà, donc.
La blague de l'inondation, enfin le.
Ah,
c'est génial.
L'ouvrier polonais qui est portugais. Ah, mais c'est quand même, effectivement, c'est plein de grosses choses. Gros sabots.
J'ai pas eu un éclat de rire pendant 1h20, 1h18. C'est en revanche un film qui est bien rythmé selon moi, mais très très mal filmé. Le seul personnage agréable à regarder pour moi, c'est Carole Bouquet. Sinon, les autres sont moches, cons, imbus d'eux-mêmes, lourds. De Groot aussi, de croûte, ce que vous voulez. Et pas mal quand même aussi, m'a fait marrer, enfin vite fait. Sinon, on comprend rien, il n'y a pas de message intéressant. Sauf que, oui, il est difficile, voire impossible d'obtenir son moment de tranquillité, loin des sollicitations permanentes de la vie moderne.
Blablabla.
Blablabla. On a une réflexion sur la société, avec l'individualisme qui arrive en prime, machin.
Mais vite fait, hein.
Je suis d'accord avec vous, vite fait, il y a quasiment
très vite fait, hein.
Si, il y a une scène qui m'a fait marrer, c'est le moment où il écoute son disque avec un personnage dont je tairai le nom pour pas spoiler. C'était marrant, ça fait une espèce de on dirait un disque un peu techno, ça revient plusieurs fois parce que le disque en fait est rouillé.
Rayé.
J'ai pas dit rouillé.
Putain, mais j'ai dyslexique en 2015,
on est encore dans les visiteurs. C'est rouillé. D'accord. Le disque est complètement rayé. J'ai jamais vu la pièce de théâtre avec Lucchini, mais paraît-il que c'est nettement mieux.
Ah, c'était avec Lucchini.
Ouais, c'était avec Lucchini, donc non, clairement.
Non, mais effectivement, ça pourrait jouer au théâtre.
Une grosse dôme, une grosse merde, voilà. J'aimerais bien.
On peut quand même dire qu'il y en a qui jouent très mal. Hein. Bouquet, elle est au bord du.
Non,
fils, c'est cata.
Stéphane, c'est merdique.
Le fils est très mauvais, j'ai bien aimé Bouquet. Moi, j'étais dans une salle de vieux, donc il riait de temps à autre. J'ai beaucoup pesté pour y aller. Et parce que juste pour dire, je me suis couché très tôt ce matin, je me suis réveillé encore plus tôt, si c'est possible, et donc j'étais très fatigué, mais ça m'a sauvé finalement, j'ai pu piquer un petit roupillon à un moment donné.
D'accord.
Donc une salle de petits vieux qui riaient de temps à autre.
Ça vous réveillait du coup.
Il riait ou il toussait?
Il riait. Non, il riait. Mais je pense que effectivement, il a pu y avoir des choses drôles.
Ils n'ont pas compris pourquoi il rigolait. Hein.
Bon, le scénario est un peu convenu. Il y a des rebondissements. Pas grand chose à en dire. Les personnages, c'est pareil. Il y a pas grand chose à en dire. Certains qui jouent vraiment très mal. Le voisin polonais est peut-être le plus drôle selon moi. Les événements s'enchaînent pas trop mal, mais c'est pas intéressant, c'est ni vraiment drôle. Et puis je suis quand même gêné par un truc, c'est que je ne sais pas comment prendre tous ces clichés qui sont sortis sur les étrangers. Les Philippins qui sont 10-12 dans la pièce.
Mais ils ont été chinois, on sait pas trop ce qu'ils sont.
Ouais, enfin, bon, ça, pas vraiment, pas les Polonais, Portugais, on sait pas si c'est. Enfin, franchement, je voyais pas comment prendre ça.
Mais il manquait
et ça m'a laissé un certain malaise.
Ah, c'est clair, je suis d'accord aussi.
Donc voilà, moi je pense que c'est un film assez nul et je sais pas quelle carrière va faire le jeune réalisateur de ce film, Patrice Lecomte. Donc je m'interroge.
Il est pas très vieux, ça.
Bah, certainement il va se faire dans la pub, peut-être pour la banque.
Très bien, alors donc bah, le film du nom, parce que le film du nom, voire un non plus, puisqu'on a eu un oui,
un non
moins.
Plus, même on peut dire.
Enfin, le film du pourquoi pas, dont l'affiche nous a donné envie, est 20 000 jours sur Terre de Ian Forsythe et Jeanne Pollard. Un documentaire qui nous propose de suivre Nick Cave, la célèbre rockstar australienne, lors de son 20 000e jour sur Terre. Entre mise en scène et réalité, Nick Cave se raconte son mythe, rencontre des personnages qui peuplent ou ont peuplé sa vie, discute avec un psy et enregistre des morceaux de son dernier album Push the Sky Away. Il évoque la ville de Brighton où il réside, son père, ses souvenirs, ses obsessions, ses muses, son univers, le temps, les éléments, la transformation sur scène et la tentation d'être Dieu. Chanteur, auteur, compositeur, il y érige son mythe d'artiste et se raconte pour ne pas laisser ses souvenirs disparaître dans le néant. Un film que j'ai trouvé assez puissant et lyrique sur le processus créatif et la fragilité de l'être, à regarder même si on ne connaît pas la musique de Nick Cave. Un film plein d'anecdotes et de monstres sacrés, tel Nina Simone dans sa loge criant avant un concert.
C'est génial, ça.
Bring me some champagne, cocaine and sausages.
Ça, c'est génial.
Un peu comme Michelle Grosse quand elle sort de boîte de nuit.
Exactement. J'aime bien les saucisses.
Eh bien, Michelle Grosse, quel est votre avis sur le film alors?
Couscous. Waouh, purée. C'est
Michelle Grosse bonasse aujourd'hui.
Film qui mérite. On fera les photos sur Facebook.
On va faire les photos sur Facebook après.
C'est un film qui mérite un sacré coup d'œil. C'est un film intime, secret. D'ailleurs, il joue dans très peu de salles à Paris pour garder le côté un petit peu intimiste.
Effectivement.
C'est un film sur la création en général.
Je crois pas.
C'est un film intense, un message qui est délivré, la mémoire et nos souvenirs en chasse gardée. La lutte pour les conserver, tout écrire, tout consigner, comme un musée, il délivre comme un message universel qui parle à tous si on a un tant soit peu sensible. Hein, Stéphane ? Tel un religieux, un ascète. Il décrit toutes ses sensations, ses émotions, son imagination sonore avec précision. On plane avec lui accompagné de son album Push the Sky Away. C'est chiant. Ses retouches systématiques sur la musique, on rentre dans sa mécanique intellectuelle, dans sa philosophie, dans sa spiritualité, dans sa réflexion. Il en parle simplement, il est comme un être complet, parfait. Ça aurait pu être un peintre, un romancier. Ça aurait pu être... D'ailleurs, il est un peu romancier. Bref, ça marche.
Il a deux romans.
Je suis pas musicienne, quoique je chante à mes heures perdues sur la ligne 2 du métro. Nos auditeurs sont en gros sur la page Facebook pour le constater. Mais il convertit, nous convertit à sa musique, aux instruments. Il suscite une curiosité qui nous guide vers quelque chose de supérieur. Plus qu'un film, c'est une émotion. C'est un être fascinant, élégant, mystique, physiquement, vestimentairement. Vous avez vu toujours ces cols de chemise là qui rehaussent comme ces
grosses bagues.
Ces grosses bagues, il est magnifique, ces yeux bleus de
ouf. On se montre.
Cette gueule qui fait de lui un espèce de personnage unique. Tout pour plaire à Michelle Grosse. Moi, j'ai vraiment adoré.
Donc, Michelle Grosse, un gros oui.
Ah oui, un gros orgasme pour Nick Cave.
Un gros oui.
Diane la tendresse. Je vous sens moins tendre avec
elle. Alors, écoute, c'est bon. Soyons francs, le début et la fin du film, musicalement, valent tout à fait le prix du billet. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup absolument d'investir sur une game. Alors, j'ai eu quelques inquiétudes au début du film de voir à nouveau un film très cool. Nick Cave et sa grande œuvre, son grand travail d'écriture dans un donjon passéiste. Par exemple, lors des scènes de répétition en studio où son génial guitariste Warren Ellis, qui est pour moi vraiment le deuxième grand personnage de ce film, multiplie les blagues, potaches, ou lors de la commande de café décaféiné avec un nuage de lait mais sans sucre, où je trouvais ces musiciens creux, insipides, s'auto-congratulant.
Un café de Lionel Richie.
Ok, là j'avais pas. Alors il y a ce moment drôle, etc. sais que Nick Cave fait du Lionel Richie. Bon, ok, ouais. Je me suis dit, merde, là, ça me rappelle mes ex, là, ça me fait pas. Puis malgré tout.
C'est combien il y en a eu?
Et puis malgré tout, ça, exactement, il y en a déjà trop eu. Il y a eu beaucoup d'heures sur Terre, beaucoup de shows passés, à ranger, à classer dans le passé. Puis malgré tout, ce film, grâce à la ville d'eau de Brighton, qui est choisie par Nick Cave pour être sa résidence, trouve sa brume. Un début d'épaisseur. La séance de psychanalyse interview qui m'a un peu gênée parce qu'il y a un écran de contrôle quand même, je ne sais pas si vous l'avez vu, à côté du psychanalyste qui a vraiment une tête de psychanalyste caricaturale, qui est dans, donc cet écran de contrôle qui est dans le champ, et puis cette rencontre qui a l'air, qui est remémorée à Nekev Souvenelo par son assistante qui l'appelle, qui lui laisse un message sur son répondeur le matin même pour lui rappeler son rendez-vous. Et puis du coup, je me dis, mais que sont toutes ces voix qui le guident dans le programme de sa journée, comme cette journée ne lui appartenait pas tout à fait à lui-même. Donc à quel point cette scène-là de la rencontre avec la psychanalyste est effectivement mise en scène, jouée. Ce qui m'a gênée, c'est qu'on y découvre une information clé, effectivement, de ce qui meut Nick Cave dans sa créativité, à savoir le récit d'un souvenir. Où son père lui lit, bon, je vais spoiler un peu là, mais le premier chapitre de Lolita. Puis en lisant cet extrait, son père se transcende et devient, dit-il, quelqu'un de supérieur. Et Nick Cave, il rechercherait dans son art la transformation qui avait eu lieu pour son père ce jour-là, un changement d'état qu'il peine à décrire clairement, au fond. Et d'ailleurs, dans ce changement d'état, la toxicomanie, elle est complètement balayée, là. Elle n'est pas du tout évoquée. Moi, ça m'a un peu interpellée. Mais tout ça, c'est quand même très donné à voir et ça reste assez superficiel. Et le mystère n'est pas du tout amendé. Il reste complètement entier. Donc la seule impression, moi, d'authenticité que j'ai observée, c'est qu'après cette séance avec le psy, ben Kev a l'air anxieux. Et d'ailleurs, il va déjeuner chez Warren Ellis, qui lui a préparé un super plat, puis tu sais, on rêve tous d'être là. Et il ne touche pas à son assiette. Ouais. Voilà, il ne mange pas du tout. Alors, pense-t-il que pour lui, cette transformation tant attendue, elle n'est pas encore pleinement atteinte? Voilà, il y a quelque chose qui échappe un peu à la mise en scène que j'ai trouvé assez intéressant dans l'étrangeté qu'on ressent. Alors après, je laisse de côté tout le défilé de fantômes dans sa voiture hein, qu'il roule sous la pluie, souvenirs mal refoulés, qu'on peine à relier à son histoire. D'ailleurs, pendant tous ces moments-là, moi, je fantasme l'accident de voiture, parce que certainement pour me donner une contenance, comme ça, créer un peu de l'événement. Et puis, je vous passe aussi cette visite aux archives énigmatiques qui semble un peu figurer...
Mais parce que ça colle avec
ce film. Alors là, c'est tout à fait métaphorique, ça semble figurer les méandres, les strates de la mémoire de Nick Cave, qui dévoile surtout, selon moi, les zones blanches, justement, de cette mémoire, à savoir les points d'oubli, comme la drogue, comme sa relation avec PJ Harvey, comme plein de choses comme ça dont il ne veut pas parler. Par rapport à ce tissage, quand même, ce tissage qu'il fait, qui est très maîtrisé par rapport aux points qu'il souhaite mettre en lumière de ses souvenirs. Mais ça reste selon moi assez surfait. Dans la seconde partie du film, Nick Cave redevient un personnage qui n'a jamais cessé d'être. Personnage qui sait dorénavant en quoi il se transforme, à savoir en corbeau gothique, aux chemises à col haut, qui pourrait parfois l'étrangler. Voilà. Mais qui semble avoir oublié ce qu'il était avant, à savoir un adolescent ingrat, un adolescent dont l'intérêt paternel pouvait manquer, selon moi. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que ce film n'a pas saisi l'être.
Mais pas comme ça, parce qu'il allait au concert quand même, son papounet.
Mais c'est... C'est pas un film,
en fait. Tu penses qu'en fait, il le regrette, ce truc-là. Tu vois, tu penses que c'est présent.
C'est pas un film, c'est pas un documentaire.
C'est pas un documentaire, c'est Nick.
Il a pas su voir comme Nick, en fait.
C'est lui qui décide de raconter sa légende.
C'est lui qui décide de raconter sa légende, exactement. Il décide de raconter le personnage qu'il est devenu. Et il décide surtout de laisser à couvert l'adolescent d'avant. Et même, c'est pire que ça, c'est pas il a décidé, c'est je crois qu'il a oublié. En fait, c'est pas tellement un film sur la mémoire, c'est un film sur ce qu'il a oublié, c'est ce qu'il était avant. À force de traquer cette transformation, moi je crois que son être de nature, il l'a complètement laissé.
Vous êtes brillante, Diane.
Ailleurs, voilà. Et moi, du coup, de même, moi je suis restée sur ma faim, devant mon assiette, comme lui.
À côté de moi,
et j'aurais aimé qu'on me parle davantage de Spur,
de sa femme,
qui lui lit quand même
de sa femme aussi,
non mais qui lui lit l'histoire d'un pédophile Et ça, on ne développe pas.
Non, j'ai oublié ça.
Écoutez, bah, lui, premier chapitre de LOL,
on voit bien sur l'air.
Devant son fils, on ne sait pas quel âge. Il n'y a pas de mère.
La petite marotte de Diane la tendresse sur l'inceste.
Écoutez, en tout cas,
dans le cinéma.
Et Diane, quand il mange une pizza avec ses fils, vous pensez que c'est la même chose?
Stéphane Couillard.
Ça manque de ponctum.
Bon, moi,
intéressant.
Vous savez comment on travaille, les vies qu'on mène. Je suis arrivé là-bas, j'étais encore un peu imprégné de ma soirée précédente.
J'avais fait la veille
quelques pertes d'équilibre, l'estomac brouillé. C'était un vrai grand rite. Donc je me suis retrouvé dans la petite salle du Luxor, pas très grande, 65 places environ, les jambes de côté pour éviter qu'il n'y ait personne devant. Et j'étais avec un ami. Et.
Un petit peu
ma vie, voilà. J'ai trouvé que le film était long parfois, assommant aussi, mais qu'il y avait ces scènes musicales qui sont quand même extraordinaires.
On voit
à ce moment-là tout ce que Nick Cave raconte et explique dans le film sur sa vie, son travail, s'incarner en une pure bouffée d'énergie qui prend forme, qui croît, qui s'étend selon sa propre tonalité. C'est la création qui s'incarne. Et j'ai trouvé que cette énergie transformait tout le film. Tout ce que ça touchait de proche et lointain. Moi, je dois dire que j'avais toujours négligé Nick Cave et ses Bad Seeds, les prenant un peu pour des seconds couteaux du rock'n'roll.
C'est un peu le cas. Hein.
Et figurez-vous que j'ai découvert un artiste quand même assez exceptionnel, et je ne fais plus qu'écouter ses disques, regarder ses vidéos. Et je reste béat.
Il y a toujours ses albums à Nick Cave.
Exactement, et je reste béat devant ce type qui bouge sur scène avec cette voix merveilleuse. Et ses gestes déhanchés de dandy australien. Ça m'a retourné. Moi, je recommande très vivement ce film. Je recommande très vivement ce film. J'ai deux remarques à faire un peu annexes. Il est en tournée dans les mois qui viennent. Tous les concerts sont complets.
Ah, mais faut y aller.
Les places sont extrêmement chères. Tous les concerts sont complets.
Est-ce que vous avez échappé dans la France, tous les concerts sont complets.
En Allemagne, en Belgique, en Russie, tout est complet. Et puis sinon, une petite chose que j'ai remarqué, c'est que les essuie-glaces de Jaguar font merveilleusement bien leur travail.
Ça, c'est vrai.
Ah, bravo Stéphane.
Donc oui.
Je vous aime.
Maria Turi.
Moi, c'était la bonne surprise parce que, bon, pour rien vous cacher, j'ai fait un peu le grand écart ces deux derniers jours parce que j'ai vu tous les films. Alors, pas avec le siège de devant, mais j'ai vu tous les films en deux jours.
T'es les moisir, c'est moisi la semaine.
C'était le dernier film. Et après être allé sur les Champs-Elysées voir Clavier, j'étais quand même au MK2 Rambuteau cet après-midi pour aller voir ce film.
Bah, c'est bien.
Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que pour moi, c'est un objet cinématographique non identifié. C'est pas un film, c'est pas un documentaire, c'est pas une biographie. Et c'est pas non plus un film sur le processus créatif.
Une autofiction. Un OCNI.
Du coup, OCNI, oui, effectivement. Pas comme le continent, mais
c'est
bref, voilà.
C'est fantastique.
Du coup, effectivement, il y a quelques longueurs parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez innovant. Mais je trouve quand même qu'à certains moments, on touche à quelque chose d'universel. Il y a certaines scènes, notamment dans la voiture, et puis les scènes de live, etc. Moi, je trouve ça audacieux d'avoir fait un film sur Nick Cave maintenant. On a très peu d'images d'avant, on a très peu de vidéos d'avant. En fait, c'est assez courageux de faire un film sur ce qu'il est maintenant, parce que je sais pas quel âge il a, il est plutôt jeune, il doit quand même se teindre les cheveux d'ailleurs, le bon Nick Cave, parce qu'il est quand même très brun. J'ai trouvé que c'était un film...
C'est racé, nos débuts de thème dans la glace.
J'ai trouvé que c'était lumineux, j'ai trouvé ça très lumineux. J'ai trouvé qu'on touchait sur une sorte de spiritualité. Peut-être que ça vous échappe, les amis, mais j'ai trouvé que c'était très spirituel.
Mais ça l'est.
Ça m'a fait très fortement penser à un film que moi j'adore et qui est à peu près du même style en termes d'objets cinématographiques non identifiés, qui est le film qui s'appelle Dream of Life sur Patti Smith, qui est à peu près du même acabit. Sauf que celui de Patti Smith, il a été fait sur 30 ans de temps ou sur. Voilà. Pour moi, c'est assez audacieux. Voilà, je trouvais ça beau de se raconter au présent. Et je voulais proposer, puisqu'on est un peu parti d'écouter ce merveilleux duo, non pas celui avec Kylie Minogue, etc. etc. C'est d'écouter la chanson qu'il a faite pour Marianne Faithfull, qui s'appelle Crazy Love, qui est une des plus belles chansons qui existent. Donc écoute cette chanson, Crazy Love, Nick Cave et Marianne Faithfull.
Faithfull. Alors donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand même globalement du oui, il y a pas de problème.
Ça c'est le vrai film du oui en fait.
Pourquoi pas, le vrai film du oui.
Comme souvent.
C'est vrai.
Dommage parce que
l'audace paye en 2015.
Oh, c'est beau.
Très bien, chers auditeurs, alors que toute l'équipe de la flasque ronflait dans le chalet au lendemain du réveillon, Stéphane Couillard a courageusement enfilé sa combinaison rouge
et ses raquettes
pour chroniquer deux autres films. Piste bleue, piste rouge ou piste noire, à lui de nous donner son avis sur La famille Bélier d'Éric Lartigot et Fidelio l'Odyssée de Lucie Borletot. C'est très difficile à dire. Spécialement concocté pour l'occasion, c'est la rubrique Touchous. Stéphane, c'est à vous.
Oui. Bon, je commence par La famille Bélier.
Alors, La famille Bélier.
Bon, c'est écoutez, Bélier, hein. Moi je suis un peu naïf.
Piste bleue.
Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire, simple, bien racontée, avec de beaux personnages, une histoire pleine d'humanité.
On a 2 millions d'entrées quand même.
Ouais, non, mais ça m'étonne pas que ça fonctionne. Ouais,
oui. Ça fait quand c'est même un film. C'est sorti depuis un mois, non?
C'est un roman, je crois pas. 15 jours.
15
jours.
3 semaines.
Non, 2-3 semaines. Hein.
Ouais. 3 semaines.
C'est un film fort émotionnellement, l'amour entre les gens, le destin de chacun, le choix et l'exercice de la liberté. C'est un film qui joue sur des choses très profondes, fondamentales dans nos existences.
Ouais.
Les aspects techniques du film, la justesse du jeu des acteurs, franchement, j'en ai absolument rien à faire. On suit cette jeune fille qui a le don de chanter et qui vit dans une famille de sourds, où donc personne ne peut la reconnaître pour cette valeur, et qui doit faire le choix de l'émancipation totale contre les siens, et ceux-ci eux-mêmes qui vont finir par la soutenir, contre eux-mêmes et par amour. Se forçant à reconnaître quelque chose qu'ils ne peuvent même pas sentir, que pressentir, et très faiblement. Il y a une scène assez jolie où le père met ses doigts sur la gorge de sa fille pour sentir les vibrations des cordes vocales. Et moi, j'ai trouvé que c'était très beau. Alors, il y avait pas mal de mouchoirs froissés, du reniflement dans la salle. C'est pas très étonnant, mais pourquoi ça marche? Parce qu'on carbure à l'émotion. Et de ce point de vue-là, ça fonctionne tout à fait, c'est vraiment très bien fait. Donc moi je dirais, allez voir ce film, travaillez cette sensation qui est l'émotion, c'est pas cynique du tout et ça fait du bien.
Donc c'est piste bleue, faut y aller à fond quoi.
Piste bleue si, on est très bon skieur.
Alors à défaut de tir fesse, est-ce que ce serait pas un peu tire-larme quand même Stéphane?
C'est pas grave, c'est absolument pas grave.
On peut y aller, c'est tout le monde, c'est très bien. Alors,
Fidelio de Lucie Borletot avec Melville Poupeau et Ariane Labène notamment. L'histoire, pour faire vite, c'est l'histoire d'Alice. Oui. C'est l'histoire d'Alice, une jeune femme de 30 ans qui est mécanicienne dans la marine marchande. Donc elle est mécanicienne dans la marine marchande et elle embarque pour une traversée en remplacement d'un homme qui est mort en mer. Pour cet embarquement, elle laisse à terre son petit ami norvégien. Et au cours de cette traversée, elle va retrouver à bord un ex qui est le commandant de bord. La jeune actrice Ariane Labède qui joue Alice, je crois, a reçu un prix d'interprétation à Locarno pour ce rôle. C'est un film à la fois lent et rapide, avec beaucoup de silence et beaucoup de bruit. Non, Michel.
Ben non, mais avec beaucoup de
bruit. Vous me déconcertez. Elle est très silencieuse quand elle fait l'amour. Le bateau, par contre, est très très bruyant. Et je ne sais pas s'il fait l'amour.
C'est l'amour à la mer.
Ou peut-être des baleines qui va.
C'est un peu incestueux faire l'amour à la mer quand même.
Vous voyez vraiment de l'inceste partout.
Donc c'est un film qui traite de pas mal de choses, du sentiment amoureux, de l'amitié, de la vie de l'équipage, de la mer, des ports. En réalité, c'est un film très sensuel. Et moi, je pense, alors j'ai beaucoup aimé Nickel, et je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu ce mois-ci.
Oh non,
mais de très très loin pour le reste.
Bon, on y court.
C'est tout chousse quoi.
Vous m'avez donné envie d'aller le voir.
L'heure tourne, chers chroniqueurs, et c'est déjà le moment de donner à nos auditeurs vos recommandations personnelles.
Oh non!
Culbut, culture, culturisme. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a ému, ce qui vous a retourné.
Quel but?
Maria Thurie.
Oh, bravo, vous êtes punie, Maria.
Alors, je fais un petit pot pourri pour ce début d'année, parce que ça sentira meilleur. Comme ça, c'est mieux le déodorant Axe de Michel. Pot pourri.
Mais plus de déodorant pour femme.
Des films que.
Êtes-vous vraiment une femme, Michel?
Bon, il n'y a pas de classement, mais c'est des films qui m'ont plu là ces derniers temps et dont on n'aura pas parlé dans l'émission. Et surtout des films français. Alors j'avais envie de parler de On a failli être amis d'Anne Loni avec Karine Viard, Emmanuel Devos et Roche Dizem. Je trouvais que c'était français, que c'était frais, que c'était bien joué, que c'était un bon film. Voilà, je l'invite Je pense qu'il est un peu passé à la trappe. Tristesse Club, qui est un truc un peu décalé.
Ah oui, ça c'est très bon ça.
Avec
ah
ouais, Vincent McCain, Ludivine Sagnier et.
Ah ouais.
Et notre ami. Ouais,
là je souscris
Laurent Lafitte.
Là je souscris totalement, c'est très.
J'ai trouvé ça décalé et très amusant. Voilà. Bird People, qui était un film de Pascal Ferrand qui est sorti en 2014 avec Anaïs de Moustier et Josh Charles qui joue dans. The Good Wife, pour ceux qui regardent des séries américaines.
Ah oui, j'aime beaucoup.
Qui était un peu décalé aussi, voire complètement bizarre, et qui, moi, m'a plu. Et un film qui est culte, qui va devenir culte, qu'il faut absolument aller voir, si vous ne l'avez pas vu cette année, c'est Jackie au Royaume des Filles de Riyad Sattouf.
Ah oui, j'ai
pas vu. Voilà. Apprenez ses répliques par cœur, moi, je ne m'en lasse pas.
C'est sorti quand?
En 2014. Non, non, c'est pas du réchauffé.
C'est du souvenir.
Ouais, c'est bien, un petit revival.
Et deux autres films qui sont pas français, ce film polonais.
Où la flasque n'existe pas.
Exactement.
Un film polonais.
Ce film polonais, Ida, de Paweł Pawlikowski, qui a été récompensé là très dernièrement en tant que meilleur film européen de 2014. C'est un film en noir et blanc, magnifique, ouais, comme ça, ça vous donne pas envie. Ouais. Le cadrage est original, il y a toujours sa tête dans un coin et puis des paysages enneigés derrière. C'est vraiment un film très beau, qui n'est pas très long. Regardez-le, c'est génial. Et dernier, alors pour le coup, là, c'est un peu un morceau de bravoure pour se le farcir, c'est Winter Sleep, c'est la Palme d'Or à Cannes en 2014. Regardez-le, ça vaut vraiment le coup de se taper les 3 heures et quelques de film parce qu'on en apprend énormément sur la nature humaine. C'est un film très beau, voilà, et un film qu'on n'a pas du tout l'habitude de regarder. Donc voilà, un petit pot pourri.
Très bien, merci Maria. Diana Dandresse, votre coup de cœur?
Bah, ce sera un peu plus culturisme là, évidemment, mais bon. Moi, mon coup de cœur de la saison, c'est le patin à glace.
Oh, génial!
Eh oui, mon coup de cœur, c'est le plaisir enfantin que l'on prend à glisser, à se retrouver à égalité entre grands et petits, entre riches ou pauvres, dans le contrôle de nos mouvements, à verser sur le dos ou sur les fesses quand on n'a pas bien maîtrisé, quand on a manqué d'attention. Et je vous dis, je voulais vous raconter qu'au Québec, nous, eh bien, on transforme toutes les places dans tous les villages en patinoires éphémères. Alors moi, ça me rappelle les souvenirs de glissade au Mont-Royal, sur le lac au Castor. Ça me rappelle mon enfance à Québec, à la ville de Québec. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, puisque cette circonstance, ben, allez au Grand Palais, du coup, vous les Parisiens.
Il reste plus beaucoup de jours, hein, dépêchez-vous.
Il reste quelques jours, mais profitez-en, parce qu'on est tellement bien sur la glace. Puis, on s'amuse vraiment, mais d'une manière incroyable, d'une manière gratuite et très juvénile. Voilà, moi j'ai retrouvé un plaisir fou qui m'a fait revivre effectivement tous mes souvenirs d'enfance. Donc mon coup de cœur cette fois-ci, ben, c'est le patin à glace.
Génial, super, j'adore.
Très bien, alors où est-ce qu'on y va?
Un peu partout, à la patinoire.
On va faire un patin demain.
Là vous avez la patinoire du Grand Palais, là présentement.
À défaut de rouler un patin pour faire du patin demain.
Ah, je le reconnais pas. Très bien, la patinoire, Michel Gross.
Alors moi, mes amis, chers chroniqueurs, je suis partie voir Mesmer le Fascinateur.
Ah, mais ça c'est dingue, j'avais envie d'y aller.
Jusqu'au 31 janvier à Bobino. C'est un célèbre hypnotiseur, votre confrère canadien.
Canadien.
Formidable. Il est venu tout droit de là-bas pour hypnotiser un public de 4000 personnes environ dans une salle, ce qui est une performance incroyable. C'est complètement bluffant. C'est bluffant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a 3 temps en spectacle. Le premier, c'est on voit si on est réceptif. Avec ses yeux bleus, sa voix grave, hypnotisante, on prend nos mains. Premier test. Prend nos mains comme ça. Bon, malheureusement, je vais essayer de faire passer du phonique. On joint nos index. Il nous parle.
Oui.
Et il nous dit maintenant, vous êtes très bien. Vous sentez très très bien. Vous sentez super bien. Vous avez une chaleur en vous, machin. Vous pouvez plus décoller vos doigts. Premier test. Je fais comme ça. C'est mort, j'y arrive pas, il m'a pas hypnotisé, bref.
Les doigts se décollent
totalement. Il y a des gens dans la salle, il y a à peu près 13 personnes qui sont collées, qui ne peuvent plus bouger. À partir de là, il prend le contrôle sur votre esprit. Incroyable. Il lève ces personnes, il dit maintenant vous allez venir sur scène. Les personnes viennent sur scène. Il y a 2 hommes qui sont tombés amoureux l'un de l'autre.
Oh, c'est excellent.
Incroyable. Il y a des hommes qui sont tenus la main en ayant un orgasme, juste en se tenant la main.
Non.
Incroyable, c'est très génial.
Il faut absolument que j'irai.
Jusqu'au 31 janvier. C'est absolument incroyable, il y a des gens qui ont revécu le stade fœtal dans le ventre de leur mère, qui ont pu exprimer après ce qu'ils avaient ressenti.
Ça me rassure, c'était pas l'extérieur au moins.
C'est pas l'extérieur.
On est sûr de ça.
Il y a des hommes qui ont vécu un accouchement incroyable. À un moment, Mesmer prend un homme dans la salle et dit maintenant, vous avez un revolver. Le mec se lève, il a un revolver fictif, il le tend vers sa tempe. Et Mesmer dit maintenant, vous tuez. Et le mec se tire une balle, de façon...
Il meurt.
Et il meurt,
en fait. Et Mesmer met son mouchoir dans la fuite du...
Et Mesmer, les gars, il fait...
La fuite de fioul.
C'est complètement incroyable. Deuxième test, on se frotte les mains. Michel,
racontez pas tout
Michel,
le spectacle, quand même.
Le spectacle.
Non, pas tant que ça, finalement.
Non, si, parce arrêtez-vous,
que...
on a envie d'y aller, Michel.
Absolument pas. Parce que vous ne l'avez pas vu, je ne vous spoil rien. Michel rejoint les mains à nouveau, les index, elle se pose, elle dit, ouais, ça marchera jamais.
Et là...
Vous êtes bien, et là, Michel...
Elle n'arrive plus à
décoller ses doigts.
Oh, formidable!
Michel commence à sombrer dans un espèce de sommeil où elle lutte.
Ta merde.
Et Mesmer dit, ne luttez pas. Voilà. Et à un moment, je me suis sentie très très bien. Je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. J'avais des chaleurs là au niveau du cœur.
Des chaleurs.
Des chaleurs.
Au niveau du vent, des entrailles. Je me sentais super bien. J'étais vraiment bien. Elle a dit, maintenant vous allez vous lever, vous allez danser le twist. Sauf que Michel était...
Elle s'est pas dansé le twist.
La veille, où elle s'est couchée à 8h du matin. Et elle s'est endormie son voisin. Et au moment, maman Michel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a paniqué. Elle a fait Michel. Et du coup, elle m'a réveillée de ma torpeur.
Je t'interdis.
Voilà. Elle m'a réveillée de ma torpeur. Du coup, j'ai pas pu aller jusqu'au bout.
Tu n'as pas dansé
de...
le twist.
Non, jusqu'au bout de cet événement. Mais en tout cas, il y avait mes voisins à côté qui dansaient le twist. C'est assez incroyable. Je vous le conseille. Ça coûte à peu près 50 balles. C'est à faire une fois dans sa
On
vie.
On peut se faire inviter.
C'est oui.
Par Michel.
Mais pas par Michel.
Ça a été remboursé de la période où tu t'es endormi.
J'aurais pu me rembourser 10 minutes quand même. Et voilà, je vous le conseille. C'est fantastique. C'est une expérience à vivre une fois dans sa vie.
Parenthèse, Mesmer a vraiment existé. Hein. C'était un chercheur autour de la neurologie au 18e. Puis le mesmérisme, c'est l'ancêtre de l'hypnose. Ça s'appelait le mesmer. C'était un magnétiseur, Mesmer.
Bien, vous me clouez systématiquement à chaque flasque. Et je vous en remercie, c'est incroyable. Donc voilà, je vous le conseille. C'est
Mesmer, au théâtre après.
Au début de
l'eau.
On y va, on est parti.
Très bien. Une belle expérience pour 2015.
Magnifique, franchement magnifique, magnifique.
Stéphane Couillard, votre recommandation.
Moi je vais encore y aller de mes petites chroniques étranges qui pourra servir de.
Une chronique lyrique.
Voilà, exactement. Mais elle va l'être, vous allez voir. Et elle pourra servir de bonne résolution pour la nouvelle année. C'est une chronique sur l'esprit joueur. Alors, on entend souvent les gens se plaindre de ne pas être bien, de ne pas arriver à leur fin ou de finalement s'en insatisfaire. L'autre jour, je croisais un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il venait de faire aboutir un de ses projets anciens dans la restauration. Il m'en expliquait toutes les péripéties, ça n'avait pas été facile. Mais il faisait preuve de beaucoup d'enthousiasme. Il était passionné, sûr de son coup. Et si c'était pas celui-ci, ce serait le suivant, ou celui d'après. Et moi, je me disais, bon sang, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui en tire force, courage, ténacité et satisfaction. Qui en récolte les fruits. Rencontre, argent, reconnaissance, appréciation de soi, dynamisme et même le repos mérité. Quel bonheur ce doit être. Il faut sentir en soi le désir émerger. Il faut requérir sa volonté, rassembler ses forces, faire travailler son imagination pour le concrétiser. Il faut jouer de ses talents, user de ses atouts, combattre ses défauts, surpasser ses faiblesses. Il faut mettre son intelligence au défi. Il faut user de ses propres mots pour le partager. Il ne faut pas singer. On peut puiser l'envie, les idées, les outils, les inventions à la source des autres, mais il faut tout réarranger à la sienne. Il faut mélanger, malaxer, adapter. Il faut rentrer en soi et cultiver, brasser, détonner. Il faut se trouver dans toute son originalité, sans crainte. Il n'y a pas d'autre chose à faire qu'à être soi. C'est être soi qui est joie. Alors pour cela, il faut rester ouvert, garder l'esprit accueillant. Il se passe toujours quelque chose et c'est pour nous. C'est pour nous, là, maintenant, que ce soit bon ou néfaste, que ce soit attendu, espéré, fui ou détesté. Ce quelque chose qu'il a pour nous, personne d'autre ne peut goûter. Personne d'autre ne peut s'y fabriquer.
Waouh!
Voilà, l'air est porteur du possible et notre création. Nous sommes des esprits joueurs.
Tu mets des frissons.
Donc je vous recommande d'entretenir votre esprit joueur.
Esprit joueur.
Oh, esprit joueur. Oh, on va applaudir, on va applaudir.
Ah oui, on va applaudir.
Merci, merci.
Esprit joueur pour
la patine.
Et du premier degré et de la patinoire.
Et pas de cynisme.
Et voilà, et Mesmer, c'est déjà la fin. Était présent ce soir pour vous souhaiter
bonne année.
Les chroniqueurs Michel Gross du journal satirique Awakiri.
Bonsoir.
Au revoir. Maria Thury du magazine Télémoisir. Stéphane Couillard du mensuel Citizen Q. Et Diana Tendresse du courrier de Chicoutimi. L'émission de ce soir a été animé par moi-même, Caroline Garçon, 11 782 jours sur Terre.
Oh, oh, jeune. Je suis en tête du peloton de derrière nous.
Un grand merci également au très brillant Benjamin Bollet qui réalise le générique de l'émission. Chers auditeurs, ne soyez pas timides, donnez-nous votre avis et réagissez par email à l'adresse flasquefume@gmail.com. Pour réécouter l'émission et la partager, rendez-vous sur notre page Facebook La Flasque et la Fume ainsi que sur Twitter. L'équipe de La Flasque et la Fume vous souhaite plein de bons films pour 2015, un peu de tranquillité, un peu de violence et beaucoup de rock'n'roll.
Yeah! Bonne année!
Et vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de La Flasque et la Fume. Ouais!
Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Expecting a surprise, maybe an encounter that will change her life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes her sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you find me. Love is crazy, love is blind.